Le Seigneur la vit, il fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Toujours que ce soit du temps de Jésus ou du temps des rédacteurs des textes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, des temps qui ont suivi jusqu'à maintenant et des temps qui suivront toujours, il sera question pour chacun dans son rapport à Dieu d'une réponse personnelle. Mais toujours, cette réponse aura été guidée, soit par un moment fort vécu, comme le dit l'apôtre Paul, soit par une rencontre déterminante, par un intermédiaire, un être humain. C'est le message de Luc, en fait, autant dans l'Évangile que dans le livre des Actes des Apôtres. Un message où l'on prend conscience, non de la personne uniquement de Jésus ou d'un apôtre ou d'un disciple, mais on prend conscience que quelque chose de bien plus grand, bien plus haut, bien plus englobant, précédant et succédant chaque vie, est là. C'est la parole. Telle une flamme, elle se propage. Souvent, elle est combattue, parfois accueillie et fêtée, toujours poussée, portée. Toujours, elle fait sortir d'où l'on est. Toujours, elle fait exister. C'est ainsi, au début du chapitre 7 de Luc, je ne l'ai pas lu, qu'un militaire romain l'ayant reçu, on ne sait comment, ni où, part à la rencontre de Jésus en toute confiance. Il a un amour pour son esclave très fort. Et cet esclave est en train de mourir. Alors il part et il sait que la parole qui est en Jésus, par Jésus, peut guérir son esclave. Et Jésus termine ce bref passage en disant « Jamais ». En Israël, je n'ai trouvé deux fois pareil. Mais il nous faut parfois, même souvent, même presque toujours, lutter contre quelque chose, et ce quelque chose, c'est soi-même. Lutter contre notre propension à croire que nous savons, ou bien à croire que l'image que l'on a de Dieu ou celle de Jésus-Christ sont définitivement figées, fixées, que c'est une sorte d'image qu'on peaufinerait depuis le début, mais qui ne serait pas possible de bouger. Eh bien non. Ces images-là de Dieu, tout au long de notre compréhension du sens de la vie, changent, évoluent. Peut-être même nous font comprendre la proximité de Dieu et la fraternité en Christ. Nous savons dès le début de l'Évangile, nous l'avons vu la semaine dernière, Luc est loin d'être accueilli, reconnu comme le Messie de Dieu annoncé par les prophètes du Premier Testament. Et pourtant, il s'inscrit dans l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, mais il explique les actes de ces prophètes différemment des habituels commentaires des Écritures. Ainsi, nous avions vu qu'il indique la liberté de Dieu d'agir par les actes des prophètes envers des personnes non juives. Nous l'avons lu, la veuve de Sarepta est donc hors Israël. C'est donc un commentaire qu'il a fait d'ouverture de Dieu vers d'autres nations. Et c'est un commentaire rarement prêché dans les synagogues et qui a été mal reçu, provoquant colère, extrême violence, qu'il y a eu volonté de tuer Jésus, celui qui a commenté ce texte. Cette première prédication au chapitre 4 dans la synagogue était un décalage dont il faut nous souvenir, qu'il nous faut entendre aussi pour notre propre compréhension aujourd'hui. Si nous, chrétiens, sommes persuadés maintenant, comme quoi tout évolue, que partout dans le monde, Dieu est celui de tous les chrétiens, une forme de mondialisation, nous oublions parfois qu'il est Dieu de tout homme au monde, quelle que soit l'expression de sa foi ou de son athéisme. Il ne s'agit pas d'enfermer Dieu dans un « pour nous seulement ». Jésus, dans notre lecture du chapitre 7, va une fois encore nous décaler. Luc nous montre Jésus agissant à la manière du prophète Élie. Il est donc bien ancré dans l'Ancien Testament. Il ne le rejette pas, loin de là. Il va ramener la vie à un jeune homme considéré comme mort. Et Élie l'avait déjà fait. Nous l'avons vu et nous l'avons lu. Dans les textes connus de l'Antiquité romaine, relatant des vies de médecins, quelques textes évoquent de telles revivifications. Souvent cependant, est-il écrit que l'on supposait que la personne n'était pas réellement morte, qu'on l'avait crue morte. Parfois on appelle résurrection ces revivifications dans le Nouveau Testament ou dans les commentaires ultérieurs ou même dans des prédications encore actuelles. Peut-on, sans attaquer la puissance de la parole passant par Jésus, remarquez que la résurrection de Jésus et ses retours à la vie ne se ressemblent pas du tout. Les personnes revivifiées vivent de nouveau dans leur famille et elles connaîtront au temps voulu, comme chacun de nous va le connaître un jour, la mort. Mais est-ce là le plus important de ce miracle relaté par Jésus ? Je vous invite à observer et comparer les actes des deux prophètes, Élie et Jésus. Dans chacun des deux textes, la position initiale est la même. Une femme, seule, sans mari, veuve, toutes les deux, et son fils. Celui-ci est considéré comme mort. Élie, avec elle, entend l'idée qu'elle se fait de la cause du décès de son fils. Vous l'avez entendu. Elle se sent coupable et elle évoque sa faute et elle considère le lieu d'Élie, je rappelle qu'elle est non-juive, donc ce n'est pas son Dieu, elle considère le Dieu d'Élie comme la punissant par l'intermédiaire de la présence du prophète. Les paroles, les gestes rituels, la prière d'Élie, l'action de Dieu, l'entendant, vont redonner souffle à l'enfant. Alors la femme sait que celui qu'elle accusait de lui porter malédiction est vraiment homme de Dieu, porteur de parole en vérité. Voici donc le texte du premier livre des Rois. Qu'a pu faire comprendre, et c'est important, Élie à cette femme. Je le pense et le crois, aucune culpabilité dans la maladie de son fils, quelle que soit sa faute. La faute de l'un n'impacte pas la vie de l'autre, sauf acte de violence voulu, bien entendu. Élie a répondu à une incompréhension par l'homme de son rapport à Dieu. Élie a déjà décalé l'image que la femme se faisait de Dieu. Il n'a pas agi seul, Élie. Il a prié Dieu, Dieu l'a entendu et lui, Dieu, a redonné le souffle à l'enfant. À l'époque de la rédaction de ce texte, il était important pour les rédacteurs du Livre des Rois de faire comprendre au peuple juif, qui était très certainement alors en exil à Babylone, que le lien entre Dieu et son histoire n'était pas une histoire de punition lorsque tout allait mal. Les prophètes annoncent toujours que ce qui arrive est bien plus conséquence de mauvais choix de vie que de récompense ou de punition venant de Dieu. Le texte de Luc nous paraît étonnamment proche de celui des rois. Cependant, la femme ne demande rien. Elle est enfermée dans son désastre, dans le désastre de sa vie. Elle est comme morte, elle aussi. Le chagrin de perdre l'être aimé est immense. Veuve, elle vit pour une deuxième fois ce chagrin. Sa place dans la société devient précaire, fragile, car le fils unique mort, elle n'existe plus selon la culture de l'époque. Elle ne sait qui est Jésus. Et même si elle le savait, elle ne sait pas qu'il arrive avec ses hommes pour entrer dans la ville. Elle ne manifeste rien non plus. Et elle ne dit pas non plus qu'elle se sent coupable de la mort de son fils. Et là, la différence avec le texte des rois, c'est que c'est Jésus qui agit, seul, du fond de son émotion. Il est ému aux entrailles, nous dit le texte. Tout comme nous lisons que Dieu est ému devant les malheurs vécus par son peuple dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Il est dit, Dieu dit, « J'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. » Jésus ne fait pas de geste spécial non plus, ni rituel. Il ne fait aucune prière spécifique que Dieu entendrait. Jésus est habité par cette compassion de Dieu qui a mal de la douleur de cette femme. Jésus en ce temps-là, à ce moment-là, est l'humanité de Dieu qui souffre de la douleur de l'humain. Et tout le monde reconnaît en lui Dieu qui visite le monde. Cela dépasse simplement la reconnaissance de la femme. Tout le monde reconnaît. Ainsi, Jésus est bien un prophète à la manière d'Élie. Et ceux qui en doutaient sont bien obligés de constater sa capacité à guérir, à redonner souffle à un mort. Mais différemment d'Élie, il donne à voir en lui Dieu touché, Dieu ému qui agit pour que cessent les pleurs, pour que la famille soit reconstituée, pour que cette femme à qui il rend son fils soit elle-même rendue à la vie en société. Les deux décalages opérés par Élie et Jésus ont ainsi corrigé l'image de Dieu que se représentent tant de personnes, encore maintenant, y compris d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui se disent sans Dieu, athées, ou qui crient leur colère à Dieu, comme la veuve de Sarepta. Je reprends en conclusion, rapidement, ces quelques corrections. Et je vous demande à chacun de vous interroger sur votre propre image de Dieu. Premièrement, les événements de nos vies ne sont jamais voulus en termes de punition ou de récompense de la part de Dieu. Christ nous annonce le pardon sans condition et l'espérance de Dieu pour une vie de pardon dans notre existence avec nos sœurs et nos frères. Ensuite, les événements de nos vies ne sont pas décidés et voulus par Dieu, mais accompagnés par lui, car les détresses sont entendues. Et alors la force de son amour devient notre force pour lutter, notre capacité à l'empathie envers notre prochain. Ensuite, Dieu ne se présente pas comme un despote, indifférent à ce qui se vit, à ce que vit l'homme, mais c'est lui qui vient, qui est ému de compassion, qui pleure devant la détresse humaine. C'est lui qui prend l'initiative de la délivrance. Et cela concerne tout être humain, qu'il croit ou non en Dieu, qu'il le dise ou non, qu'il soit de Sarepta, qu'il soit de Tyre et Sidon, qu'il soit d'Iran, d'Irak, de Syrie, qu'il soit de n'importe où. Et la dernière remarque, remarquons que nous avons à recevoir Dieu en Christ, Dieu vivant dans l'humanité de Christ. Là, c'est notre capacité à l'amour et au service du frère qui est attendue, qui est développée. Et cette parole en humanité portée par Christ se répand, se reconnaît, est reconnue, nous atteint. Ah, si le monde pouvait seulement entendre ces corrections dans les images qu'il véhicule de Dieu. Plus personne alors ne chercherait à imposer sa compréhension du divin à l'autre. Plus personne n'enfermerait Dieu dans ses paroles. Chacun laisserait la parole vivre en lui. Je nous l'espère pour tous, chacune et chacun. Amen. Je vous invite à chanter le 45 sur 14. Jésus est au milieu de nous. Restons debout pour confesser notre foi. Je mets toute ma confiance en Dieu, source de toute vie. Les Écritures nous le montrent désireux de relation avec les hommes. Elles nous parlent aussi d'hommes qui prient. Les Évangiles me montrent Jésus qui, par la prière, vit en relation avec Dieu. Il le nomme Père et nous appelle à vivre de la même relation, en frère. Ce message d'amour dérange les hommes qui préfèrent force et pouvoir. Jésus est rejeté et meurt crucifié. Ma fidélité à l'appel des évangiles n'est donc ni sécurité ni confort. Elle est souci constant de témoigner de la tendresse de Dieu, transmise et éprouvée dans mes relations avec tout homme. Ma confiance est nourrie et fortifiée par l'échange, l'écoute et la prière avec les frères qui répondent au même appel, dans le temps et dans l'espace. Amen. Mon seul abri, c'est toi.